percé à la surface de l'eau, creusant sur cette surface des ondes qui s'élargissent lentement et longuement, des cercles concentriques qui peuvent s'étendre à l'infini avant qu'enfin la surface retrouve son calme lisse. Il se peut que d'autres pierres lancées juste avant ou juste après créent des ondes concurrentes, disharmonieuses, provoquant même des vagues, mais un moment au moins, il y a eu un choc solitaire, un beau plouf, une danse à un seul danseur, ce qu'on appelle en danse un solo. L'arrière-pensée de cette manière de présenter une réflexion est presque toujours, explicitement ou implicitement, la haine du système, le refus de proposer une conception du monde organisée, hiérarchisée, cohérente et articulée comme un cosmos créé par un Dieu intelligent. Cette technique du fragment accepte un risque, la contradiction interne. Ce que dit ou suggère un fragment peut en effet contredire ce que dit ou suggère un autre fragment. Loin de se donner comme un édifice harmonieux et fonctionnel, la pensée se donne comme un entassement de rocs plus ou moins chaotiques. C'est au lecteur de trouver une cohérence à ce qui n'en a pas encore, de faire apparaître et de résorber les frottements et même les conflits internes. C'est dire que le lecteur n'est pas sollicité de la même façon dans les deux cas, texte long ou texte court. Lisant un traité, il n'a qu'à suivre. Le travail est fait d'avance. Pensez par exemple à Spinoza, procédant more geometrico. Chacune des parties de son éthique part de définitions et d'axiomes accompagnées d'explications, puis donne lieu à des propositions numérotées dont chacune est l'objet d'une démonstration suivie éventuellement de corollaires et de scolies. Avec les pensées dispersées en fragments, au contraire, si le lecteur veut dépasser la méditation rêveuse sur chacun des fragments et trouver ce qui fait la cohérence de l'ensemble, c'est à lui de travailler, c'est à lui de faire des rapprochements, de confronter, de critiquer, puis de conclure. Le traité ou la somme appelle la docilité, les fragments appellent le commentaire et, comme on dit aujourd'hui, l'interactivité. Autrement dit, le fragment est pris entre deux caractéristiques opposées. D'une part, son incomplétude, son aspect partiel, son allure d'ébauche, d'esquisse, d'illumination passagère. Et d'autre part, sa complétude, sa perfection, son côté définitif d'une clarté stable. Pour reprendre l'image de la pierre, il est à la fois caillou, bout de rocher, brut, difforme, avec des arêtes tranchantes, et galé, bien lisse, poli par le long travail de la mer. Cela étant dit, je vais insister maintenant sur deux cas particuliers, deux formes brèves qui ont une apparence de fragment, l'épigramme et l'aphorisme, où justement le côté clos, poli, complet, l'emporte nettement sur l'autre. Elle se recoupe sur certains points, le goût des jeux de mots brillants, de la surprise, l'art de la pointe, mais diffèrent suffisamment pour qu'on les aborde l'une après l'autre. L'épigramme remonte au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. On pourrait citer un certain nombre de noms, je ne donnerai que celui d'Archiloque et d'Anacréon. Au début, comme dit le mot grec, elle est une simple inscription, épigramma, généralement laudative, en l'honneur d'un dieu ou d'un mort. Les poètes de la période alexandrine, c'est-à-dire 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ, dont Méléagre de Gadara réunira un choix d'œuvres dans sa couronne, qui donnera la future anthologie grecque, je dis ça pour les spécialistes, puis des poètes grecs écrivant à Rome à la fin de la République et sous l'Empire, vont faire évoluer cette forme de l'épigramme dans ses maîtres et dans ses thèmes, dans ses maîtres, je veux dire, dans sa mesure rythmique et dans ses thèmes, jusqu'à cette forme complexe et souple que vont utiliser au 1er siècle de notre ère Ovid, Sénèque, Lucain, Catulle et surtout Martial, qui en demeurera le maître. Ces deux traits initiaux, la brièveté et le ton louangeur, vont perdurer plus ou moins au fil des siècles. Plus ou moins. C'est-à-dire qu'au temps de Martial, déjà, brièveté peut signifier une dizaine ou une quinzaine de vers. Après tout, en France, le sonnet, qu'on présentera plus tard comme une forme propice à l'épigramme et à la pointe, le sonnet fait déjà 14 vers. Et l'éloge évolution, autre évolution, l'éloge du dieu peut se changer en éreintement des humains. Du coup, l'épigramme peut être beaucoup de choses. Elle peut être une supplique, un toast, une déclaration d'amour ou d'amitié, un gémissement philosophique, une sentence, un conseil, un portrait, un caractère au sens de Théophraste et puis de La Bruyère, une plaisanterie, un ragot, une insulte, une vacherie. À la fin, comme a dit quelqu'un, c'est toute la poésie en miniature. À partir de Martial, elle aura toujours ces deux traits structuraux. Elle est toujours premièrement centrée sur un individu qu'elle prend à témoin ou qu'elle attaque. Et deuxièmement, elle a une pointe. C'est pourquoi, par parenthèse, Martial a beau expliquer qu'il épargne les personnes et s'en prend aux vices, les siennes, ces épigrammes, ou tant d'autres, sont en réalité parfois de véritables coups de poignard dont on a du mal à se remettre. Il suffit de penser à la plus fameuse, peut-être de toutes les épigrammes, celle qui est de Voltaire, qui s'est inspiré pour l'écrire de deux vers grecs. Épigramme dirigée contre Élie Fréron, un ennemi des philosophes que Voltaire, pour les besoins du vers, va rebaptiser Jean Fréron. Et la voici. L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva. Donc l'épigramme s'adresse à l'individu, soit pour le louer, soit pour le démolir. C'est un compliment ou, le plus souvent, une férocité. Sa particularité en ce cas est qu'elle ne s'interdit aucune obscénité, aucune méchanceté, fouillant volontiers chez Martial dans la vie sexuelle ou les infirmités des personnes invoquées. Les compliments, quand il y en a, peuvent être charmants. Par exemple, de Martial. Pourquoi, Paula, m'envoyez-vous des couronnes de roses fraîches ? Je préférerais celles qui se sont fanées sur votre sein. Mais les méchancetés dont les hommes politiques, dès l'époque des rois de France, ont fait régulièrement les frais, mais de simples particuliers aussi, peuvent être très épicées. Deux exemples de Martial, entre beaucoup d'autres. D'une femme, il dira que, je cite, « ses mamelles pendent sur sa poitrine comme des haillons et que son bas-ventre est béant comme une fente infinie ». D'un homme, il dira, de façon encore plus crue, « ton nez et ta verge sont si longs que l'un peut renifler l'autre ». Pointe veut donc dire deux choses, que cela pique, mais aussi que cela termine quelque chose. C'est comme dans le fameux vers de Cyrano de Bergerac, de Cyrano dans la pièce d'Edmond Rostand, à la fin de l'envoi, je touche. C'est une petite blessure, mais c'est en même temps une petite apothéose. De fait, le vers ou le mot ultime qui déclenche tout, l'illumination, le sourire, le plaisir, n'est qu'une pièce dans un dispositif préparé de longue main. Et que, par parenthèse, la forme versifiée, avec les rimes en particulier, aide beaucoup. Donc, n'est qu'une pièce dans un dispositif préparé de longue main. Ce dispositif tient généralement à l'association entre des ressemblances de signifiants, pour parler comme Saussure, et des différences de signifiés. Un cas fréquent, notamment chez Martial, ce sont les doubles sens. En rhétorique, on parlerait de syllepse. C'est-à-dire que l'auteur joue sur les deux sens possibles d'une même expression. Mais c'est seulement à la fin que l'on comprend qu'il emploie l'expression dans un deuxième sens. Par exemple, dans cet épigramme un peu salé, Lesbi assure que, de sa vie, elle n'a été baisée gratis. C'est bien vrai, elle n'a jamais trouvé d'amant qu'en payant. Le jeu des deux sens possibles vient ici des deux sens possibles de gratis. Dans la bouche de Lesbi, ça veut dire « je ne me donne que pour de l'argent ». Tandis que sous la plume cruelle de l'auteur de l'épigramme, ça veut dire « elle est obligée de payer pour coucher avec des hommes ». Dans un cas, on la paye, dans l'autre, elle paye. Le deuxième sens, donc, n'apparaît qu'à la fin pour discréditer la personne visée. C'est une chute aux deux sens du mot. J'en viens maintenant, et pour finir, à l'aphorisme. Peut-être un tout petit peu plus long que sur l'épigramme.
アフォリズムの方がエポリズムより長いかもしれません。アフォリズムはギリシャ語の実詞アフォリスモスに由来します。アフォリスモス自体はオリゼイン、制限する境界を定めるという動詞から来ています。そこからフランス語のオリゾン、地平線が来ています。その動詞に前置詞アポ、遠ざかることが付け加えています。アフォリスモスの意味は従って限定です。そこからアリストテレスにおいては特に範疇論において定義という意味が出てきます。そしてよく映画アフォリスムという言葉が使われるようになったのは医師たちの中です。ヒポクラテス、そして後になってガリエノスです。短い定義、格言、そしてアフォリスム、現代的な意味でのアフォリスムという意味でアフォリスモスが使われていました。ヒポクラテスのアフォリスムは助言であり処方であり普通決定的なものです。例えば睡眠も不眠もどちらも過度になると悪いといったものです。あるいはヒポクラテスのアフォリズムですが、夏には特に上から浄化をし冬には下から浄化をすべきであるというのもあります。時にはヒポクラテスの格言は人生全般に関わることもあります。単に医学的な視点ではなく道徳的な視点から書かれたものもあるのです。彼の最初のアフォリズムの例ですが、これ医師向きのものです。引用をします。人生は短く、医術は長し、好機はすぐに逃げ去る、経験論は危険である、推理は難しい、自分で適切なことをするだけではなく、さらに病人本人や病人を介護する人々や外的なものに助けられなければならないというのです。お分かりになるかと思いますが、これは単なる医学を超えて人生一般についての考察を行っています。すなわちアフォリズムの意味が広がるということはヒポクラテスの時代からすでに予想ができたのです。そこで19世紀にリトレが指摘をしたように、リトレの辞書のことを言っているんですけれども、この言葉はまず医学に限られていたが広がり、今では政治的なアフォリズムとも言うとリトレは書いています。 そこからリトレはより全般的な意味を提案しています。わずかな言葉で大きな意味を含む格言という定義をアフォリズムに対してリトレが行っています。もう一つの辞書トレゾールドララングフランセーズにおいてはアフォリズムに関しては一般に受けられている実用的な真理を言い表す簡潔な命題という定義がなされています。今日ではさらにこの定義を広げることができるでしょう。そしてアフォリズムはほとんど箴言、マクシム、サンタンス格言、プロベルブことわざ、アフォフテグム、ケイク、プロポ、話などの同義語だと考えることなったと考えることができます。少なくともですが、2つの文学的に重要なテキストにアフォリズムというタイトルがついています。リヒテンベルグのアフォリズムとカフカのアフォリズムです。アフォリズムの特徴はどういうものでしょうか。7つ8つ特徴があると思います。アフォリズムには構造がある、整合が難しい手品である、パズルのピースのようなが他のピースと一緒になるのを嫌がる、独創性よりも普遍性を求める、単純さよりも簡潔さを求める、しばしば辛辣である、そしてあまり愛されないというのが特徴だと思うんです。最もいい方法はこれらの点をそれぞれアフォリズムの形式で、紹介することではないかと思います。試してみましょう。1、アフォリズムには構造がある。確かにアフォリズムは短い定義か観察という形式を取った世界に対する見解である。そしてそれを裏打ちするのが習字の継承で、一般に逆説化あるいは有名な表現やことわざやあるいは引用などへの言及である。そしてまた繰り返し同音反復などの言葉遊びで修飾をされるんです。少し定義とから離れますけれども、習字学の専門家の方に申し上げたいんですが、この2つのケースをランタナクラーズ、パロノマーズと習字学で呼ばれるものです。アンタナクラーズの場合は2度同じ言葉を使う、2つの違った意味で使うという場合です。これがパスカルの有名な、心には、理性が知らない理由があるというレゾンという言葉を2つの違う意味で使っている場合であります。もう一つの方はパラノマーズの方ですけれども、類音15、同じ音を重ねます。フィット、逃げることによっての方が、スイット、一連の、その例についていく、例から逃げることによって例からついていくよりも良い、よく、自分を、ま、学ばせることができると言っています。フィット、スイットという同じ、こと音を使っています。それからもう一つの特徴、それは成功が難しい手品のようなものであるというのです。最終量の場合エピグラムのようになります。凝縮したエピグラムになる滑稽な俳句、あるいは高度の騎士に富んだ稽古となります。成功するアフォリズムはあふれないほどの奇跡である。一つの人生すべてを要約するような真理と基地があふれる言葉を一つにまとめなければならないんです。深みと軽さを結びつけなければなりません。基地のない真理は多く、真理なき基地のある言葉はさらに多いのです。アフォリズムの王国では火花は火に、ほとぼしりは水だと捉えられることがよくあります。しかしうまくいった場合、アフォリズムは夜の雷鳴になります。1秒の間アフォリズムの一つが私たちに世界を白昼よりもさらに明らかに見せてくれます。3番目の特徴、パズルのピース。なぜこのようにして思想を一つにまとめず断片で表すのか、それは先ほど断章について申し上げましたが、それは子どもがイースターエッグを庭で探したりスゴロクをする時のような喜びを得るためです。 またそれはパズルのピースを集めて全体像を浮かび上がせる喜びにも似ています。第4番目の特徴とはいえ、アフォリズムは他のものと共にあることに耐えられません。アフォリズムの様態は驚かされるような一般論で、しかも断定的な定義でありますから、疑いやニュアンス、論証、あるいは揃えたりまとめたりする思想を作るような努力とはうまく折り合いません。過度であったり矛盾したりする断言が一つの落ち着いた命題に溶け込む代わりに平地されます。それはちりぢりになってゴツゴツした世界のビジョンです。まだ分米中で戦争中の思想、最終のラミネーション以前の思想、思想以前の思想ということもできるでしょう。5つ目の特徴、独創性よりも普遍性を求めるという特徴です。それは愛についても同じです。愛については独創的になれることはありません。ドニド・ルージュモンは愛のヨーロッパや中世の起源について多くのことを語っていましたが、彼が言ったことにもかかわらず、恋愛の情熱はそれ以前にも他のところでも、例えばギリシャ人の中にも日本人の中にも存在していましたし、第一火星人の中にもあるにあってもおかしくありません。愛についてのアフォリズムは普遍性の刻印をされているために、そもそも非独創的なのです。6番、単純性よりも簡潔さを求めるアフォリズム。アフォリズムは簡潔さに憧れます。しかし簡潔さは必ずしも単純さではありません。簡潔かつ複雑でもありますし、複雑だから簡潔であることもある。またその逆もあり得ます。いまだに私がまだ理解できない、シャンフォルのアフォリズムが存在しています。あまりにも短いために、それは意味が曖昧でわからなくなるのです。7番、アフォリズムはしばしば苦い。アフォリズムは何もないところから出発をし、すべてから戻ってきたと言おうとする人々の形式であると考えます。最後に、アフォリズムは愛されていない。アフォリズムは貴重であると同時に気取って見えます。アフォリズムに対して簡単をすると同時にイライラさせられます。それは文学の宝石のようなものですから、多くの人々が嫉妬します。女性がいとこの真珠のネックレスに、男性が隣人のカルチエの腕時計に嫉妬するかのようです。アフォリズムを従って出版することは難しいのです。出版社は小説を出す方が好きです。批評家たちは自分たちでも書けると思います。読者たちは無駄が多いと思います。それは花火のロケットのようです。一つの花火が前のよりも少し高く上がるってや否や、前の花火を軽蔑をします。アフォリズムの一つ一つがそれだけしか存在せず、一番見事であろうとしますから、互いを貶めようとします。アフォリズムはありのままで捉えることでしか救えることができません。つまりメランコリーの暗い空から落ちてきた音調のかけら、破片状の英知、パズル上の人生、石英のように輝く極小の銀河です。この部分を締めくくる最後のアフォリズムとして、アフォリズムは決して十分に短いことはなく、アフォリズム集は決して十分に長くない。厳密に言うために、もう少しいくつかのアフォリズムの種類についてお話しましょう。最初は進言あるいは助言になります。毎回例を出します。リヒテンベルグの例、精神には疑いの、心には寛容の習慣を与えよ。なかなか、難しい計画です。これは有名だと思います。カフカのアフォリズムです。世界とお前の戦いにおいては世界の側につけ。2つ目のアフォリズムのカテゴリーです。幻滅を伴う事実確認です。これおそらくラ・ロシュフーコーの特技です。 ロシュフーコーは残酷にも我々が自分自身に対して絶えず演じている喜劇を告白します。私たちは人尊心か虚栄心に動かされ、逆に美徳から行動していると思い込んでいます。ロシュフーコーです。もしそれを生み出す動機すべてを世界が見ているとしたら、我々は自分たちの最も素晴らしい声をしばしば恥じるだろう。
Donc voici une belle maxime peu connue. Les gens faibles, moi je dirais les gens mous, sont les troupes légères de l'armée des méchants. Ils font plus de mal que l'armée même, ils infectent et ils ravagent. Et là, je pourrais donner, dans cette catégorie-là, du constat des abusés, les innombrables aphorismes sur l'amour que l'on doit à tant de grands écrivains, depuis celui de Champfort, justement. L'amour, tel qu'il existe dans la société, n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Depuis celui-là, donc, quand on dirait qu'il résume le livre de Choderlos de Laclos, les liaisons dangereuses. Et jusqu'à un autre qui est plus récent, qui est de Céline, dans Le voyage au bout de la nuit. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Ensuite, nous avons la vérité d'ordre général, inspirée souvent par une conception grave ou légère de la vie. Champfort, encore. La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri. Où l'on n'a pas ri. Quatrième sorte, la vacherie, la condamnation féroce. C'est un point commun, là, on peut le dire, avec l'épigramme. Sauf que dans l'aphorisme, la charge n'est pas ad hominem, elle ne vise pas une personne particulière. Sous la forme de la maxime, elle s'en prend à tous les hommes, en principe, ou en tout cas à une fraction importante des hommes, à commencer en principe par celui qui l'énonce. Alors, un exemple de La Rochefoucauld sur les vieillards. Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. Une nouvelle catégorie, ce que le dictionnaire des idées reçues, le modèle étant celui de Flaubert, ce sont toujours des citations entourées d'invisibles guillemets, des propos qui semblent au premier degré, comme des observations ou des proverbes pleins de bon sens et recommandables, et qui sont en réalité au deuxième degré, constituant un tableau de la sottise humaine, chaque phrase étant comme un attendu, comme dans une plaidoirie à charge. Dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, de A à Z, je donnerai juste un exemple de la lettre A, actrice. La perte des fils de famille sont d'une lubricité effrayante. Et puis, le dernier du dictionnaire, c'est la lettre Y, Yvetot, c'est un petit village de Normandie qui est très peu connu et qui sert de modèle à Flaubert dans Madame Bovary. Et ça lui inspire ceci, voir Yvetot et mourir. Donc, évidemment, une allusion à la célèbre formule sur Naples, voir Naples et mourir. Et ça, cet exemple nous introduit à la catégorie suivante, que j'appellerais le retournement des proverbes. C'est une sorte d'aphorisme assez fréquent chez certains écrivains. Un bon exemple étant celui de Lautréamont, enfin de Ducasse, dans ses poésies, lorsqu'il prend le contre-pied de formules célèbres, par exemple de Pascal, la formule de Pascal étant « l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant, etc. » Ça devient chez l'autre est un chez Ducasse. L'homme est un chêne, la nature n'en compte pas de plus robuste, etc. On pourrait observer que les surréalistes, notamment Robert Desnos et Michel Léris, se sont beaucoup amusés à jouer à ce jeu. Il en résulte beaucoup d'aphorismes, hélas difficilement exportables d'une langue dans une autre. Et je m'en suis rendu compte en choisissant ceux que j'allais vous lire tout à l'heure. Beaucoup jouent sur des expressions toutes faites ou des proverbes qui sont différents en japonais. J'ai donc dû les écarter. Alors cette observation est encore plus vraie de la catégorie suivante, l'aphorisme drôle ou à jeu de mots. Drôle, il est vrai que le sourire a quelque chose, a un rôle à jouer dans l'aphorisme. C'est peut-être pour atténuer et faire passer le sérieux et le péremptoire qu'il y a toujours dans une proposition morale. Mais la drôlerie qui provoque le sourire tient souvent, comme la pointe dans l'épigramme, à des prouesses verbales plus ou moins fines, comme le calembour ou la syllepse. Je dirais là que c'est agréable, mais qu'il ne faut pas en abuser. C'est peut-être la tentation des aphorismes. C'est comme peut-être les équivalents d'exhibitions de biceps en matière de séduction. Le vrai séducteur ne montre rien, laisse tout deviner. Il n'est pas plus mal d'écrire simple, avec ce flegme qui laisse entendre qu'on pourrait, si on le voulait, bander tous les muscles, exécuter toutes les cabrioles, mais surtout, il faut surtout n'en rien faire. Une autre catégorie d'aphorismes particulières, ce que j'appellerais le concentré d'existence ou le micro-récit, c'est-à-dire une observation très brève ou même une petite histoire, une historiette qui nous livre en quelques mots un destin et souvent en même temps l'absurdité attendrissante de la vie humaine. C'est chez Lichtenberg que j'en prendrai deux exemples. Il portait des éperons, mais ne faisait jamais de cheval. Ou bien, encore plus absurde, enfin, il avait donné un nom à chacune de ses pantoufles. C'est peut-être de cette rubrique qu'on pourrait rapprocher certains haïkus, si je me risque. Certains haïkus, si du moins on retient la définition de Maurice Pinguet, qu'on trouve dans le texte Japon, un bout de réel noté tel quel dans son insignifiance. Bon, il est vrai que l'aphorisme de Lichtenberg sur l'homme qui donne un nom à ses deux pantoufles, ce n'est pas tout à fait insignifiant, ça a quelque chose de tellement à la fois médiocre et extravagant qu'on n'est plus tout à fait dans l'insignifiance. Neuvièmement, la métaphore cocasse, la drôlerie poétique. Alors ça, c'est le type de phrase qu'on trouve souvent dans le magnifique journal de Jules Renard. Alors c'était des phrases du genre « Le pré est rasé de frais », c'est-à-dire bon, souvent des métaphores, mais qui ne plaisent pas toujours. André Gide, se plaignait chez Jules Renard de cet abus des métaphores. Il dénonçait cette manie de certains littérateurs qui ne peuvent voir un objet sans penser aussitôt à un autre. Dans une tonalité légèrement différente, je ferai allusion ici, en espagnol, au Gregarias, de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna a fréquenté Paris dans les années 20-30, mais il a écrit surtout dans les journaux espagnols ces gregarias, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par des cris, des clameurs, des jacasseries. C'est-à-dire, ce sont des phrases qui sont des mots d'esprit, des observations, des remarques poétiques, des métaphores. J'en donne deux exemples. Le glaçon teinte dans le verre comme un grelot de cristal au cou du whisky. Et en espagnol, il utilise le mot chèvre. Il compare le verre de whisky à une chèvre qui a un grelot. Ou bien, quand la femme commande une salade de fruits pour deux, elle perfectionne le péché originel. Donc, allusion à la pomme croquée par Ève au paradis dans la mythologie chrétienne. Une question pour finir ce tour d'horizon des différentes formes d'aphorismes. Jusqu'à quel degré de concision peut-on aller dans le genre bref ? Comme je n'ai pas trouvé d'exemple, j'en ai inventé. J'ai personnellement imaginé dans un texte paru et dans un autre qui va paraître, j'ai imaginé deux écrivains aspirant à battre sur le plan de la brièveté des records. Alors le premier, que j'ai appelé Raoul Houphard, est un écrivain qui, dès les années 60, 1960, harcèle les grandes revues de l'époque, les Temps modernes et la NRF, de ses poèmes qu'il appelle des univerbes et qui consistent en agrandissement pleine page d'un mot isolé. Il prétendra longtemps que Jean Paulhan a failli lui prendre dans la NRF le poème « Puceron » écrit en lettres énormes, et Jean-Paul Sartre le poème « Simone » avec exceptionnellement un point d'exclamation. L'aventure ayant été, dans le second cas, jusqu'aux premières épreuves. Et puis mon deuxième exemple, c'est un certain Hector Zwick, poète slovène, auteur d'aphorismes de plus en plus courts. À la fin de sa vie, Zwick en était venu à de pures onomatopées, quand ce n'est à de simples signes de ponctuation. Oh ! Tac, sic, et trois points. Eh bien, pour conclure, et avant d'en arriver sagement moi-même au silence complet, je répondrai à la question que je me posais sur la brièveté, sur la limite possible de la brièveté. Je répondrai à peine un peu moins ludiquement sur cette question du texte le plus bref, que celui auquel nous devons nous préparer, que nous devons peaufiner de manière qu'il dise vraiment le plus de choses en le moins de mots possible, oui, de façon qu'il résume toute une vie en quelques syllabes à peine, ce texte brévissime, donc, cet aphorisme supérieur, accomplissement de toute une œuvre d'écrivain, et aussi le dernier sans doute qu'un homme puisse écrire, c'est son épitaphe.